Oui, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette discussion parce que nous parlons de l'instrument juridiquement contraignant comme s'il faisait déjà partie du droit international. Ce serait formidable, mais écoutez, malheureusement, nous n'y sommes pas encore. Maintenant, écoutez, moi, je suis très favorable à cet instrument et je ne vais rien vous cacher. Il y a 6 ans, j'étais négociatrice pendant toute une semaine à Genève. Je négociais une des versions de cet instrument au nom du gouvernement albanais. Aujourd'hui, j'ai une autre casquette, mais je suis émotionnellement investi dans cet instrument juridique et j'ai bien hâte de voir le futur qu'on lui réserve. La réalité est que en l'état, ce n'est pas un instrument juridiquement contraignant. Mais y a-t-il des bienfaits? Je vais faire un commentaire suivi d'une petite question. Le commentaire est le suivant. Le gros de ce travail, qui en 2016, c'était un traité négligé, je dois le dire, et maintenant ça a pris beaucoup d'ampleur, et c'est formidable de le constater, car c'est le résultat de la coopération internationale. Le fait est que la volonté politique s'est accrue, la société civile a su faire pression, et le soutien public s'est accumulé partout dans le monde. Voilà pourquoi le système en place est bien plus robuste maintenant. Mais nous en sommes encore au niveau de la rédaction. Pourquoi ce processus est important? Eh bien, il a envoyé un message, un signal dans le monde entier pour que les régions et les États agissent eux-mêmes en prenant leurs propres mesures et leurs propres lois, en reflétant certains des principes consacrés dans l'instrument juridiquement contraignant. Donc, nous avons eu la loi sur la conformité aux droits humains en France. Nous avons également la directive sur la diligence voulue en Union européenne. Même chose pour la Commission africaine. Des lois au Brésil. En Afrique notamment, c'était pour la protection des marginalisés et des personnes les plus vulnérables. Donc, on voit plusieurs changements, même si nous n'avons toujours pas d'instrument juridiquement contraignant, ce qui nous échappe. Mais voici ma question. Tout cela est bien beau, mais nous vivons dans un monde où le travail des enfants, l'exploitation et de graves atteintes aux droits humains pour le profit tout simplement et le gain lucratif ont lieu maintenant, en ce moment. Donc, pendant nos négociations et l'amélioration de cet instrument juridiquement contraignant, qui, j'espère, sera mis en œuvre bientôt, et tout en continuant notre plaidoyer pour les principes directeurs des Nations Unies, eh bien, quelle est la solution qu'on présente au reste du monde? Qu'en est-il de ces atteintes aux droits de l'homme au nom du commerce et des affaires? Comment pouvons-nous protéger les personnes les plus vulnérables dans notre société? Car les affaires et les droits humains, ce n'est pas circonscrit à l'Afrique, à la France ou à l'UE, c'est une question d'ordre mondial et nous avons une dette envers tout le monde entier pour trouver une solution. Merci.